Voilà. Et donc voilà donc la dernière fois, c'était le moment de la séparation. Les apôtres ont vu Jésus s'élever au ciel. C'était le moment de ce n'est qu'à nous revoir. Ce n'est qu'à nous revoir, puisque Jésus est remonté au ciel et c'était le moment de la séparation. Et puis ils étaient sur le mont des Oliviers et c'était le moment donc de repartir vers Jérusalem, où Jésus leur avait dit d'attendre la promesse du Père qui était d'envoyer le Saint-Esprit. On va voir acte 1, 4 et 5 qui a été vu la semaine dernière. Et alors cette fois, on pourrait se dire, mais c'est le revoir, ils leur ont parlé pour la dernière fois audiblement. Est-ce qu'ils étaient tristes? Non. Cette fois, ils n'étaient pas tristes, ils étaient joyeux. C'est ce que nous dit Luc, l'évangile, la fin de l'évangile de Luc, 24, 52. Ils repartaient tous, ils étaient pleins de joie. Ils étaient pleins de joie. Il y avait quoi? Pourquoi ils étaient pleins de joie? Parce que, ils ont vu le Seigneur ressuscité. Et ils l'ont vu. Il est revenu d'entre les morts. Ils ont vu le Seigneur remonter au ciel. Ils l'ont vu de leurs propres yeux. Et aussi, ils ont entendu l'ange leur dire que Jésus reviendra de la même manière qu'il est reparti au ciel. Alors, autant de raisons de se réjouir. Et puis surtout, et ça c'est vraiment aussi l'enseignement de Jésus à ses apôtres et à nous aussi, les apôtres comprenaient que l'Écriture était en train de s'accomplir. Et elle s'accomplira encore. Autant de raisons donc d'espérer, autant de raisons d'attendre avec espérance son retour. Et donc, les voilà qui sont en route vers Jérusalem, en quittant le mont des Oliviers. Et c'est là que je vais reprendre ma lecture, au chapitre 1, donc à partir du verset 12. Et je lirai jusqu'à la fin du chapitre, au verset 26. Oui. Acte 1, 12 à 26. Et avant cela, je vais prier, Seigneur, merci encore. Tu es notre espérance suprême, Seigneur. Merci parce que si nous sommes là, c'est que les apôtres ont continué ton œuvre. Et ensuite l'Église a continué ton œuvre. Et nous voulons aussi la continuer. Merci, Père, de nous parler par ta parole, de rendre nos cœurs disposés à la recevoir. Merci, Père, et qu'elle agisse dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Acte 1, verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont appelé des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies était environ 120, et il dit « Frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture dans laquelle le Saint-Esprit, par la bouche de David, a parlé d'avance de Judas, devenu le guide de ceux qui se sont saisis de Jésus. Il était compté parmi nous et avait obtenu part à ce même ministère. Après avoir acquis un champ avec le salaire du crime, cet homme est tombé en avant, s'est brisé par le milieu et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue « Akeldama », c'est-à-dire « champ du sang ». Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Ainsi, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus allait et venait avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il faut qu'il y en ait un qui soit avec nous, témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabbas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils prièrent en ces termes, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il prenne sa place dans ce ministère et cet apostolat que Judas a quitté, pour aller à la place qui est la sienne. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Un texte qui parle beaucoup de Judas. Ça peut nous mettre mal à l'aise, ça peut nous étonner, mais beaucoup de lignes là, sur Judas. Alors, Judas, ce n'est pas le centre. La vérité que j'ai tiré de ce passage, la vérité centrale, c'est que, autour de laquelle je vais articuler mon message, c'est que Dieu, souverain, et au contrôle de toutes choses, utilise les incroyants et les croyants pour accomplir sa volonté. Dieu est souverain. Il est au contrôle de toutes choses et il utilise les incroyants et les croyants pour accomplir sa volonté. Donc je verrai ça en trois points. Premièrement, nous verrons qu'il veut les croyants comme ses partenaires unis dans la prière. Il veut les croyants comme partenaires unis dans la prière. Deuxièmement, nous verrons qu'il utilise incroyants et croyants pour l'accomplissement des Écritures. Et troisièmement, nous verrons qu'il utilise les croyants comme ses partenaires pour exécuter ses choix souverains. Alors, beaucoup de grâce, et c'est ce que je vous propose de voir ensemble. Voici donc que les apôtres, ils quittent le mont des Oliviers en route vers Jérusalem. Et le mont des Oliviers, c'était pas un endroit comme les autres. Et ce mont des Oliviers, il a dû rester dans la mémoire des apôtres. C'est pas pour rien si ces derniers événements avec Jésus ont eu lieu sur le mont des Oliviers. Pourquoi ? Parce que c'est sur le mont des Oliviers, lorsque Jésus était, avant de passer par la croix, c'est sur le mont des Oliviers que Jésus leur a annoncé le signe de son avènement et la fin du monde. C'est sur le mont des Oliviers. C'est en Matthieu 24:3 que je vous donne juste la référence. C'est aussi à partir du mont des Oliviers que Jésus s'est rendu avec les apôtres au jardin de Gethsémané, où il a été arrêté, qui a précédé donc sa crucifixion. Voir Matthieu 26:30, le mont des Oliviers est cité. Et c'est sur le mont des Oliviers, donc un peu plus avant, en chapitre 1, verset 11, c'est sur le mont des Oliviers, après l'ascension de Jésus, qu'un ange leur a déclaré que ce Jésus reviendra de la même manière qu'ils l'ont vu s'en aller au ciel. Qu'est-ce que ça veut dire, de la même manière qu'ils l'ont vu s'en aller au ciel? Eh bien, Jésus, lorsqu'il reviendra, l'Écriture et l'Ancien Testament nous dit qu'il reviendra sur le mont des Oliviers. Et certainement que les apôtres devaient connaître cette parole. Je vous lis donc ce qui est dit dans l'Ancien Testament, au chapitre 14, verset 4, de Zacharie. Il est question du Seigneur, là. C'est le Seigneur. Zacharie 14, 4. Ses pieds se placeront en ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Le mont des Oliviers se fendra par le milieu, vers l'est et vers l'ouest, en une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le nord et l'autre moitié vers le sud. C'est un endroit pas comme les autres. C'est ici que Jésus reviendra poser ses pieds. Et Jésus, le Seigneur. Alors, autant de raisons de se réjouir pour les apôtres et pour nous aussi, autant de raisons d'attendre avec confiance et espérance que Jésus revienne. Mais, attendre, oui, mais pas sans rien faire. Puisque, vous vous rappelez, Jésus leur avait donné, juste avant son départ, la mission. La mission d'être ses témoins. Dans ses dernières paroles avant de remonter au ciel, dans ce qui constitue être, on peut dire ses dernières volontés. Et on attache beaucoup d'importance, n'est-ce pas, à ce que les dernières volontés de quelqu'un soient accomplies. À plus forte raison, les dernières volontés du Seigneur exprimées par lui sont d'autant plus à prendre en compte. Je vous relis donc ses dernières volontés, acte 1, verset 8, qu'on a vu la fois dernière, Pascal. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Les témoins, donc, les témoins de Jésus. Alors, les témoins de Jésus sont avant tout, ce sont les douze apôtres qui ont vécu avec Jésus en chair, qui ont vécu avec Jésus durant tout son ministère terrestre. Là, ils ne sont plus que 11, et oui, puisque Judas, qui a trahi Jésus, s'est suicidé. Ils ne sont plus que 11. Et leur mission va être d'annoncer des faits de la plus haute importance, des faits dont ils ont été témoins, et des faits qui constituent l'évangile qui nous est parvenu, et qui, je trouve, est bien résumé, en tout cas dans 1 Corinthiens 15, 3 à 5, que je vous lis, que Paul a bien résumé, l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 15, 3 à 5. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. » Deux versets qui vous voulez dire l'évangile à quelqu'un, tout est là. Tout est là. Donc, être les témoins de Jésus, en partant de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, une mission qui semble impossible, oui, à vue humaine, mais pas pour Dieu, bien sûr. Et Jésus leur dit qu'il leur enverra une puissance qui sera la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui leur donnera l'assurance nécessaire pour accomplir justement cette mission. Le Saint-Esprit donné justement pour être les témoins de Jésus. Bien sûr, ça va demander quoi ? Ça va demander leur obéissance. Ils auront cette assurance s'ils obéissent, s'ils vont aller pour annoncer l'Évangile. Donc voilà, ils arrivent à Jérusalem, les apôtres, et où est-ce qu'ils vont ? Le premier endroit où ils vont vers la chambre haute. La chambre haute qui est probablement la même pièce où ils avaient célébré la Pâque juste avant, avec Jésus le soir qui précédait son arrestation. Voir Marc, chapitre 14, verset 15. La chambre haute où aussi Jésus était apparu aux apôtres après sa résurrection. Ils étaient dans une pièce, vous vous rappelez, et c'était là où les apôtres se réunissaient d'ordinaire. Donc, c'est très probablement là, dans la chambre haute, où ils se sont réunis. Alors, la priorité pour les disciples, c'était quoi ? Pour les apôtres ? C'était d'avoir un endroit pour se réunir. Ils sont partis. Le premier endroit où ils sont allés, sont allés à la chambre haute. Ils voulaient se réunir. Ils ne sont pas allés chacun de leur côté. Non. Là, ils avaient une espérance à partager. Ils se sont réunis ensemble dans un endroit qu'ils connaissaient, la chambre haute, pour rester unis, pour quoi faire, pour prier. C'était donc cette chambre haute. Alors, dernièrement, avec Pascal, on est allé à la rencontre une rencontre de formation pour les prédicateurs, les pasteurs, tous ceux qui ont l'occasion de prêcher, qui prêchent. On s'est retrouvés donc entre prédicateurs, et au moment du déjeuner, on est donc monté. Quelqu'un a dit, Paul Monclar, il a dit, c'est la chambre haute ici, parce que c'était vraiment une pièce où on se retrouvait tous. Bon, là, on a mangé tous ensemble, mais c'était bon de se retrouver tous ensemble dans cette pièce-là. Voilà donc que les apôtres se sont retrouvés pour prier dans cette chambre haute, mais ils n'étaient pas tout seuls, puisqu'en arrivant, est-ce qu'ils ont été surpris de voir qu'ils n'étaient pas tout seuls ? Il y avait 120 disciples qui étaient réunis, affairés à quoi ? À prier. Et là, Dieu, n'en doutons pas, nous veut partenaires. Dieu nous veut ses partenaires dans la prière. À ce stade où les apôtres ont rejoint les disciples, est-ce qu'ils se doutaient que l'Esprit Saint allait être répandu sur eux tous et sur les disciples aussi ? Un événement crucial qui est à venir juste après au chapitre 2, un événement qui constituera rien de moins que la naissance de l'Église. L'Église qui reprendra le flambeau de témoigner de Jésus au monde, une fois que les apôtres auront disparu, même après que les apôtres aient disparu. L'Église qui continuera d'annoncer l'Évangile avec la même puissance qu'ont eu les apôtres avec le Saint-Esprit, encore de nos jours. Donc mon premier point, c'est que Dieu veut les croyants comme ses partenaires, unis dans la prière. Dieu veut les croyants comme ses partenaires unis dans la prière. À l'époque, pas d'internet, pas de visioconférence. Il y avait juste le besoin et le désir et le plaisir de se retrouver ensemble pour prier. C'est la première chose qu'ont fait les apôtres, d'aller dans cet endroit-là pour prier. Et c'est aussi important de noter la première réunion, après que Jésus soit remonté au ciel et avant la Pentecôte, c'était en effet une réunion de prière avec tous les apôtres, sauf un, sauf Judas, et bien sûr les 120 disciples. Et verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Tous. Et cette expression d'un commun accord, on la retrouve souvent dans le livre des Actes, d'un commun accord. Les croyants en l'Église se mettaient d'accord pour prier ensemble, pour prendre des décisions ensemble. D'un commun accord. Alors ici, eh bien, on trouve, dans cet événement où les disciples sont assemblés pour prier, on trouve la clé de la bénédiction qui est annoncée dans le psaume 133 que je vais vous lire. Il y a trois versets, c'est pas long. Psaume 133. Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. La vie pour l'éternité. Amen.
Amen.
C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Parce que les Églises se trouvent assemblées pour prier ensemble. Unité et prière, eh bien, constituent le prélude à la grande bénédiction qui allait suivre, qui est quoi, chapitre 2 ? La Pentecôte, l'effusion de l'Esprit, du Saint-Esprit. Et puis, on va s'arrêter sur ces premiers versets de cette réunion de prière. C'était une réunion de prière qui n'était pas comme les autres. Parce que cette prière, elle devait être nouvelle, parce que c'était la prière faite au nom de Jésus, telle que Jésus leur avait appris. Et la prière au nom de Jésus, c'était tout nouveau à cette époque. Et effectivement, Jésus avait promis, en Jean 14, verset 13, il avait promis ceci, et tous, Jean 14, 13 et 14, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et certainement que les disciples se rappelaient ces paroles de Jésus quand ils étaient en train de prier. Ils ont dû aussi se rappeler une autre parole de Jésus, quand Jésus a dit en Matthieu 18, 20, « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Jésus n'était plus là physiquement, mais Jésus leur avait dit qu'il serait au milieu d'eux. Et certainement qu'ils avaient... Ils avaient donc cette pensée, parce que Jésus les y avait préparés. Donc c'est une prière qui est nouvelle, parce qu'elle est faite au nom de Jésus. Les disciples prient. Jésus est parti, mais ils prient. Et donc, arrêtons-nous aussi sur les détails de cette réunion de prière. Le verset 14 nous précise que les femmes étaient présentes à cette réunion de prière. Est-ce que c'était d'usage avant que les femmes prient avec les hommes ? Je ne sais pas. En tout cas, bien sûr que les femmes priaient dans l'Ancienne Alliance, mais ici, les femmes étaient présentes. Si les femmes sont mentionnées, c'est qu'elles ont leur importance. Leur voix compte tout autant que celle des hommes dans une réunion de prière. Et on remarque que l'Esprit n'avait pas encore été répandu. Ça allait venir un peu plus tard. Et parmi ces femmes, il y en a une, bien sûr, qui nous est familière. Qui est-ce qu'on trouve au verset 14 ? Eh bien, Marie. Marie, qui a porté Jésus dans son ventre, la mère porteuse de Jésus, elle qui a été fécondée par le Saint-Esprit. Marie, la mère de Jésus. Et peut-être vous avez entendu cette remarque d'un catholique, hein, moi j'ai souvent entendu, vous, les protestants, vous ne croyez pas en Marie. Non, il faut enlever le doute. Oui, bien sûr que nous y croyons, la Bible en parle, Jésus est né de la Vierge Marie. Mais nous ne la prions pas. Et effectivement, ici, les disciples ne priaient pas Marie, mais ils priaient avec Marie. Marie est appelée la mère de Jésus. Et elle est effectivement la mère de Jésus. Mais elle n'est pas la mère de Dieu, même si Jésus est Dieu. Et puis, après c'est terminé, on n'entend plus parler de Marie. Alors effectivement, l'Église catholique en a fait un dogme. En tout cas, c'est ici que ça s'arrête. Les disciples priaient avec Marie, et non pas Marie, ils ne la priaient pas elle. Et puis, Jésus n'est pas resté vierge. Jésus est né lorsqu'elle était vierge, mais elle n'est pas restée vierge, puisque deux demi-frères de Jésus sont aussi cités dans cette réunion. Il s'agit de Jacques et de Jude. Jacques et Jude qui écriront deux épîtres, qui sont aussi dans la Bible, qui portent leur nom, l'épître de Jacques et l'épître de Jude. Et c'est quand même aussi encourageant de les voir ici en train de prier. Parce que peu de mois auparavant, Jean avait noté leur incrédulité. Jean, chapitre 7, verset 5, il nous est dit « Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. » Et aussi Marc, l'évangéliste Marc, au début du ministère de Jésus, avait relevé l'incrédulité de la parenté de Jésus, qui avait prétendu que Jésus avait perdu le sens. C'est fou. Voilà ce qu'il disait à ses proches. Marc 3, verset 21. que de chemin parcouru. Que de chemin parcouru depuis pour la famille terrestre de Jésus. Puisque maintenant, voilà la mère de Jésus et ses frères qui sont ensemble en train de prier. Alors il y a de l'espoir si dans votre famille, il y a des non-croyants qui ne vous prennent pas au sérieux, qui ne croient pas. Eh bien, continuons de prier pour eux. Parce qu'ici, nous avons un exemple. Ceux qui étaient le mieux à même de croire en Jésus n'ont pas cru en lui au début. Et ensuite, ils sont devenus ses disciples. Et ils ont même prié. Ils étaient présents là pour prier. Voici donc les apôtres et les disciples prient. Et là, voici que l'apôtre Pierre, que les apôtres reconnaissaient comme chef, Pierre, il a été pleinement restauré par Jésus. Il avait renié son maître, mais là, il est transformé. Il va se lever du milieu de l'assemblée et il va prendre ses responsabilités. Il se lève, verset 15. Et quelle est sa préoccupation première? Bien, sa préoccupation première, c'est que les Écritures, qui de toute façon s'accompliront, soient accomplies. La préoccupation première de Pierre, c'est que les Écritures qui de toute façon s'accompliront, eh bien c'est la préoccupation de Pierre qu'elles soient accomplies. Et mon deuxième point, c'est que Dieu utilise incroyants et croyants pour l'accomplissement des Écritures. C'est ce que Pierre rappelle. Pierre rappelle que les Écritures s'étaient déjà partiellement accomplies en ce que les Écritures avaient annoncé la trahison de Judas. Ce n'était pas une surprise. Les Écritures l'avaient annoncé. Verset 16, je relis. Frère, les paroles de Pierre, frère, il fallait que s'accomplisse l'Écriture dans laquelle le Saint-Esprit, par la bouche de David, a parlé d'avance de Judas, devenu le guide de ceux qui se sont saisis de Jésus. Alors, pour nous, un verset qui montre aussi toute l'inspiration de toutes les Écritures. L'inspiration des Écritures par qui? Par le Saint-Esprit. Autant de raisons de lire toute la Bible, aussi bien l'Ancien Testament, il ne faut pas le négliger, que le Nouveau Testament. Et d'ailleurs, le Nouveau Testament cite l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, relisons justement la trahison de Judas dans l'Évangile de Matthieu. Je vais relire Matthieu dans l'Évangile de Matthieu chapitre 27, je vais lire des versets 3 à 10. Comment s'est passée la trahison de Judas que Pierre a repris en peu de mots? Matthieu 27, 3 à 10. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde ». Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang ». Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé « champ du sang » jusqu'à ce jour. Alors, et c'est là où le Nouveau Testament cite l'Ancien, au verset 9 de Matthieu 27, « Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. » Donc c'était prévu la trahison de Judas. Alors, ici, c'est Jérémie qui est cité. Hein. Dans vos Bibles, c'est dans le livre de Zacharie. Et on peut expliquer ça, on appelle Jérémie, les deux livres, Zacharie et Jérémie, hein, dans la tradition. Ici, donc, on a quelle mort terrible pour Judas. Une mort qui a été connue ensuite de tout Jérusalem, nous dit le texte. Mort terrible, oui, mais son sort éternel a été infiniment plus terrible. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais parfois, dans une discussion, la question est sortie, mais est-ce que Judas a été sauvé, au final? Après tout, il s'est repenti. Est-ce qu'il était au bénéfice de la grâce de Dieu? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'était repenti. Mais clairement, Judas n'a pas été sauvé. La réponse est non. Judas n'a jamais été sauvé. Jésus l'avait appelé un démon. En Jean 6, 70, que je vous lis, Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze, et l'un de vous est un démon. » Il appelle non seulement un démon, mais il appelle aussi, il appelle Judas le fils de perdition. Dans sa prière, la prière de Jésus en Jean 17, verset 12, que je vous lis, 17, verset 12, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. » Donc non, Judas n'a pas été sauvé. Ce verset que j'ai lu, Jean 17, 12, se termine par « afin que l'Écriture fût accomplie ». Et oui, c'est Jésus qui avait choisi Judas, de même qu'il avait choisi les 11 autres disciples. Et Jésus, n'en doutons pas, est-ce que Jésus s'était trompé en choisissant Judas ? Judas qui allait le trahir ? Non, certainement pas, certainement pas. L'Écriture l'avait déjà mentionné. Jésus ne s'était pas trompé dans le choix de Jésus, puisque l'Écriture l'avait prévu. Et Jésus lui-même avait choisi Judas. Jésus lui-même savait que Judas le trahirait, il le savait. Parce que rien n'échappe au contrôle de Dieu. Dieu sait tout. Le futur, le présent, le passé. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Peut-être vous vous dites parfois, en regardant certains dirigeants qui se comportent comme des dictateurs, mais de nos jours, non, rien n'échappe au contrôle de Dieu. Que ce soit l'élection de tel ou tel dirigeant qui se comporte en dictateur, et il y en a dans notre monde, que ce soit tel ou tel problème qui vous atteint personnellement ou qui vous a atteint, tel ou tel problème qui arrive ou qui peut arriver dans la vie, ça peut être la maladie, ça peut être le manque d'argent, ça peut être la perte d'un travail, ça peut être la perte d'un être cher ou autre. Mais rien n'échappe à Dieu qui est souverain. Raison de plus de lui faire confiance. De lui faire confiance, rien ne lui échappe. Le choix de Judas par Jésus soulève aussi une autre question qui a fait couler beaucoup d'encre. Hein. Qu'en est-il du libre arbitre ? Judas avait-il la liberté d'agir comme il le veut, comme il le voulait ? Puisque Dieu fait tout ce qu'il veut de toute manière, est-ce que ça veut dire que nous sommes tous des pantins irresponsables ? C'est une question qu'on doit tous se poser. Est-ce que nous avons le libre arbitre ? Certains pensent que oui, d'autres pensent que non. Nous ne sommes pas des pantins irresponsables. Dieu s'est servi de la trahison de Judas et de son amour pour l'argent pour accomplir son plan de salut pour toute l'humanité. Oui, Dieu s'est servi de Judas. Mais ça n'enlève en rien la responsabilité de Judas, la gravité de ses actes. Nous sommes tous responsables de nos choix, même si Dieu les connaît à l'avance et même si Dieu contrôle tout. Comme il avait annoncé la trahison de Judas. Il y a un verset qui, je crois, met d'accord, enfin, qui devrait mettre d'accord ceux qui disent qu'il y a l'homme a un libre arbitre, la liberté de choisir. Et non, Dieu est souverain et c'est lui qui contrôle tout. Il y a un verset qui concilie les deux et qui, je trouve, est très clair. C'est lorsque Jésus dit, en Luc, chapitre 22, verset 22, voici ce qu'il dit en parlant de Judas. Luc 22, 22. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Donc déterminé dans les Écritures. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Judas était responsable de ses actes. Luc 22, 22. Oui, c'était écrit, Judas trahirait Jésus, mais ça n'enlève en rien sa responsabilité. D'autant plus, il n'y a pas de circonstance atténuante pour Judas. Il n'était pas un ignorant. Pierre rappelle qu'il avait accompagné Jésus en chair. Que Judas connaissait Jésus, il a vu ses miracles, il a entendu ses enseignements, il a vu faire du bien. Il a été compté parmi les douze et avait eu part au même ministère, verset 17 de notre texte. Et c'est en cela que son jugement est sévère. Il était responsable de ses choix, même s'il fallait que l'Écriture s'accomplisse à son sujet. Et donc l'Écriture, Pierre va la citer par deux fois. Il dit, il est écrit, verset 20. Et donc, Pierre va citer deux versets qui se rapportent à Judas. C'est dans le psaume 69 et le psaume 109. Alors, en quelques mots, le psaume 69, on ne va pas le lire, ni le psaume 109. Mais lisez-le à la maison, je vous encourage à le lire, à les lire. Dans le psaume 69, eh bien, une grande partie du psaume s'applique à David. Mais pas tout, parce qu'une autre partie s'applique à Jésus. À Jésus et à ceux qui l'ont persécuté, en l'occurrence Judas. Et Pierre, donc, dans le psaume 69, il cite le verset 25, que je relis, le verset 25 du psaume 69, « Que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. » Ce verset-là, il s'est accompli. Quand Judas s'est pendu, il a laissé sa maison vide. Puis Pierre cite le psaume 109. Et le psaume 109, c'est un psaume qui est sévère. C'est un psaume d'imprécation, on appelle ça. Un psaume qui demande la malédiction de ceux qui rendent le bien pour le mal pour le bien. Qui demande non pas la bénédiction, mais la malédiction à ceux qui rendent le mal pour le bien. En l'occurrence, Judas a rendu le mal pour le bien. Et donc, Pierre cite le verset 8 du psaume 109, et voici ce qu'il dit, « Que ces jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. » Qu'un autre prenne sa charge. Alors, le remplacement de Judas, c'était aussi prévu dans l'Écriture. Mais à ce stade, cette parole de l'Écriture n'était pas encore accomplie, contrairement à celle du psaume 69. Judas s'était suicidé, mais il n'avait pas encore été remplacé. Et la préoccupation première de Pierre, ça va être quoi? Ça va être d'accomplir cette parole. Ça va être de remplacer Judas. Pourquoi? Parce qu'il le faut, verset 22. Alors oui, Dieu utilise les incroyants, même à leur insu, comme il a utilisé Judas, mais pour le croyant. Pour le croyant. On peut se dire, de toute façon, tout est écrit. Mais regardez quelle grâce Dieu nous fait. C'est parce que l'Écriture, de toute façon, s'accomplira que nous sommes appelés à faire ce qu'elle dit. C'est justement parce que ça va s'accomplir que Dieu nous rend partenaires de son œuvre. Et quelle grâce! Quelle grâce! Dieu n'a pas besoin de nous. Il peut très bien se passer de nous, mais quelle grâce il nous fait quand il veut nous employer pour son œuvre. Et son œuvre, c'est d'être ses témoins, d'aller annoncer l'Évangile. Alors cherchons-nous à être partenaires avec Dieu, il nous offre cette grâce. Cherchons-nous à travailler avec lui, pour lui, par notre temps, pour que ses promesses soient accomplies. Et elles s'accompliront de toute manière, avec ou sans nous. Autant que ça soit avec nous, parce que quelle bénédiction il y a. Ça demande effectivement de lui obéir, de lire sa parole pour connaître sa volonté. Irons-nous faire des disciples comme le grand mandat qu'on trouve que Jésus a laissé à ses disciples en Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Oui, Judas devait être remplacé parce que c'est écrit. Et ce remplacement, eh bien, certainement qu'il a dû fortifier les apôtres. Jésus en avait choisi 12. Qu'est-ce qu'ils ont pensé quand ils n'étaient plus que 11? Ils ne devaient pas être 11, ils ne devaient pas être 13, ils devaient être 12. Parce que Dieu en avait décidé ainsi. Alors, le remplacement de Judas. Comment est-ce que Pierre et les autres s'y sont-ils pris pour remplacer Judas? On a tout dans ce texte-là. Que nous dit ce texte? Eh bien, on se rappelle, les apôtres, c'est Jésus qui les a choisis. C'est Jésus, Dieu le Fils, qui les a choisis. Eh bien, qui a choisi aussi Judas. Eh bien, le remplacement de Judas, il sera aussi choisi souverainement par Dieu. Le Saint-Esprit, cette fois. Dieu est au contrôle, il ne se trompe jamais. Autant de raisons de lui faire confiance et de croire à tout ce qui est écrit dans sa parole. Autant de raisons de lui faire confiance et aussi autant de raisons de faire ce qu'elle dit. Parce qu'il y a des bénédictions au bout. Alors, il y aurait l'extrême de dire de toute façon Dieu est souverain, il a déjà choisi son remplaçant, oui. Et ça ne dispensait pas les apôtres et les disciples de faire leur part. Ils avaient leur part à faire. Quelle était leur part? Ils ne sont pas des pantins. Ils avaient leur part à faire. Dieu leur a laissé une part. Quelle sera leur part? Eh bien, tout simplement, ça va être mon troisième point. Dieu utilise les croyants comme ses partenaires pour exécuter ses choix souverains. Dieu est souverain, c'est lui qui choisit. Et dans sa grâce, il nous veut ses partenaires. Il a pris les apôtres et les disciples pour accomplir son choix souverain. Quelle était la part des apôtres et des disciples? Leur part, ça va être d'utiliser leur intelligence pour chercher un ou des remplaçants potentiels qui répondraient à un certain profil, celui de l'apôtre. Donc choisir des candidats qui répondent au profil de l'apôtre, premièrement, puis de prier, puis de tirer au sort. Ils ont une part à accomplir. Et ensuite, une fois qu'ils ont retiré au sort, eh bien, le choix appartient à Dieu. Alors, le profil du remplaçant qui devait succéder à Judas, c'était celui, bien sûr, d'un apôtre. Et un apôtre, eh bien, quel est son profil? C'est qu'il a été choisi par Dieu, premièrement. Et ensuite, il a accompagné Jésus dans son ministère terrestre, depuis le baptême de Jean-Baptiste jusqu'à sa résurrection et son ascension. Donc, c'est d'avoir un apôtre à accompagner Jésus pendant toute la durée du ministère public de Jésus. Donc, le remplaçant devait avoir ce profil-là. Aussi, le remplaçant devra avoir été un témoin oculaire de la résurrection de Jésus. Il doit avoir vu Jésus ressuscité. Pourquoi? Pour pouvoir en témoigner, pour pouvoir témoigner de ses faits. Parce que la résurrection, c'est l'élément capital du message des apôtres. Le message des apôtres, la prédication apostolique avec l'envoi du Saint-Esprit, pourquoi c'est capital? Eh bien, parce que ça va être le fondement même de la naissance de l'Église. L'Église n'était pas encore née à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné. L'Église qui prendra ensuite la suite des apôtres pour annoncer l'Évangile. Donc il fallait que le successeur de Judas soit ait été témoin de la résurrection de Jésus et vu Jésus ressuscité. Alors, ils ont quand même cherché les apôtres et les disciples. Et donc, ils ont trouvé deux hommes qui répondaient à ces profils qui sont présentés au verset 22. Il nous est dit qu'il s'agissait de Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Donc, il y en a deux qui répondent à ce profil. Donc, il faut choisir. Comment choisir? Alors, une méthode qui peut nous étonner, peut-être ça vous étonne, peut-être pas, tirer au sort. Tirer au sort. Alors ça peut surprendre, mais arrêtons-nous là sur cette méthode. Déjà, tirer au sort, c'était une méthode courante dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, pour déterminer la volonté de Dieu avant une décision. Il y a un proverbe, c'est le proverbe 16, chapitre 16, verset 33, qui nous dit ceci, en parlant du tirage au sort. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. C'est un verset qui m'a fait beaucoup réfléchir. Toute décision vient de l'Éternel. Alors tu peux, tirer au sort. Toute décision vient de l'Éternel. Ça dit autrement, si on essaie de le dire autrement, ça veut dire que prendre une décision, se décider, c'est déjà accomplir la volonté de Dieu. C'est ce que dit ce passage. Prendre une décision, c'est déjà accomplir la volonté de Dieu. Quelle que soit la décision. Ça peut surprendre, n'est-ce pas? Alors, ça peut surprendre, mais attention, ça n'enlève en rien notre responsabilité. Parfois, on peut avoir tendance à ne pas choisir, le choix est trop dur. Mais ne pas choisir, c'est déjà choisir. Et, ou alors, quand on ne sait pas choisir, quand on ne sait pas se décider, parfois il y a des choix dans la vie qui ne sont pas évidents, on peut être tenté d'utiliser tirage au sort. Est-ce que je dois me rendre à tel endroit? Est-ce que je dois accepter tel ou tel travail? Est-ce que je dois me marier avec un tel ou un tel? Est-ce que je dois déménager? des décisions dans la vie qui ne sont pas simples à prendre. Mais en tirant au sort pour de telles décisions, ça reviendrait à consulter une boule de cristal. Ça reviendrait à consulter une boule de cristal et ça ne ferait que déresponsabiliser la personne d'utiliser cette méthode de tirer au sort. Et si jamais ça ne marchait pas, à qui la faute ? C'est pas moi. C'est Dieu. Ça serait avoir la tentation de jeter la faute sur Dieu. Mais non, l'homme est responsable de ses choix. Pratiquer cette méthode pour nos désirs personnels, même si on prie, serait tenter Dieu, et Dieu ne tente lui-même personne. Jacques 1, verset 13, Dieu ne tente lui-même personne. Et puis agir ainsi, donc tirer au sort, aujourd'hui, hein, ça serait se priver d'une réflexion, par paresse, une réflexion préalable qui est nécessaire avant toute décision. Avant toute décision, vous y êtes tous passés, moi aussi, n'est-ce pas? Nous pesons le pour et le contre. Oui, nous prions aussi, bien sûr. Dieu nous a donné une intelligence pour que nous nous en servions. Et puis les apôtres et les disciples, eh bien oui, ils ont fait leur part. Ils se sont donné la peine de chercher déjà dans l'assemblée, de chercher les personnes qui répondraient au profil du remplaçant, du successeur de Judas. Ils ont cherché, ils se sont donné de la peine, ils n'ont pas juste tiré au sort comme ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien sûr, ils ont prié avant de tirer au sort. Ils ont tiré au sort et effectivement, ça sera Matthias qui sera choisi. Donc, là, à ce moment-là, le tirage au sort, c'était inséparable d'un choix réfléchi, préalable, à partir des Écritures et de la prière. Le tirage au sort, ce n'était pas à consulter à la boule de cristal. Ça ne dispense pas d'une réflexion de prière et d'une réflexion à partir des Écritures. La prière, vous allez la retrouver très souvent dans le livre des Actes, hein, dans les décisions des apôtres. Et donc, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que tirer au sort, ce n'est pas quelque chose de normatif, dans le sens que ce n'est pas l'exemple pour nous à suivre. On n'en a plus besoin. Là, ce tirage au sort, c'était exceptionnel. Pourquoi ? Parce que Judas devait être désigné souverainement par Dieu. Dieu, le seul qui connaît les cœurs. Alors, il y a les critères, bien sûr, du remplaçant de Judas qui ont été énoncés, mais Dieu regarde au cœur. Et ça, personne ne peut voir dans le cœur d'un autre. Verset 24, Dieu seul connaît les cœurs. Donc, le remplaçant de Judas devait être désigné souverainement par Dieu, comme Dieu avait désigné Judas et les autres apôtres. Donc là, à ce moment-là, pas besoin de conseils sur la personnalité d'un tel, pas besoin de l'avis préalable, ni de conseils des uns des autres. Non, c'est le choix souverain de Dieu. Rien à y rajouter. Alors, c'est pas normatif, c'est pas la méthode à poursuivre de nos jours. Pourquoi ? Parce que, d'ailleurs, c'est la dernière fois où il est question, il est fait mention du tirage au sort dans l'Écriture. C'est la dernière fois. Et aujourd'hui, elle n'a plus lieu d'être, cette méthode. Pourquoi ? Eh bien, parce que le Saint-Esprit est venu. Ça va être le chapitre 2. Le Saint-Esprit est venu sur tout croyant qui confesse Jésus, qui s'est repenti de ses péchés. Et le Saint-Esprit nous donne le discernement dont nous avons besoin avant toute décision. Alors oui, nous avons tous des choix à faire dans la vie. Ne faisons pas comme Judas. Il est appelé le guide de ceux qui se sont saisis de Jésus pour l'emprisonner et pour le tuer. Mais plutôt, prenons comme guide le Seigneur Jésus, le meilleur guide qui soit. Et s'il y en a qui n'ont pas accepté, eh bien, en reconnaissant que nous avons tous besoin de lui, en vous repentant de vos péchés, eh bien, il vous donnera le Saint-Esprit. Amen, je vais prier. Seigneur, merci encore pour ta parole. Et Seigneur, c'est vrai que tu contrôles, tu es souverain de tout ce qui se passe sur cette planète et aussi dans nos vies, Seigneur. Autant de raisons de te faire confiance, Seigneur. Quand nous regardons ceux qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas d'espérance, tu es notre espérance, Seigneur. Et c'est vrai que tu appelles tout à chacun, Seigneur, à se tourner vers toi tant qu'il est temps, Seigneur. Oui, Seigneur, garde-nous d'être comme Judas, Seigneur. Et Seigneur, que vraiment tu préserves ton Église. Tu es fidèle, Seigneur, tu nous amèneras jusqu'au bout de notre parcours ici-bas. Et Seigneur, donne-nous de te suivre, de t'être fidèle, d'entendre ta voix. De nous nourrir de ta parole, Seigneur, que tu nous as laissée. Merci aussi de ce que tu nous prends comme tes partenaires, Seigneur. Toi qui n'as besoin de rien ni de personne, tu nous fais cette grâce de nous rendre partenaires de ton œuvre, Seigneur. Et tu veux nous bénir, Seigneur. Merci de tant de grâce pour nous, Seigneur, que nous suivions ta parole. Et que nous ouvrions les yeux, et ouvre-nous les yeux de notre cœur pour te voir agir dans ce que tu fais, dans nos vies et dans ceux aussi de nos proches, de ceux que tu mets sur notre route. Garde-nous fidèles, Seigneur. Et merci parce que nous pouvons te faire confiance, quelle que soit la tournure des événements, Seigneur. Merci de nous le rappeler que tu es souverain. Et merci pour la grâce que tu fais à ton Église de nous utiliser. Au nom de Jésus. Amen. Amen.